Jean Lacroix, le lecteur du journal Le Monde a l'habitude de lire régulièrement, depuis des années, depuis la fondation du journal d'ailleurs, vos chroniques de philosophie. Et on connaît aussi vos ouvrages, vos ouvrages très nombreux sur différents sujets. Comment êtes-vous devenu philosophe?
Je suis devenu philosophe en philosophant, c'est-à-dire que j'ai fait des études de philosophie et ensuite j'ai considéré personnellement que la philosophie, c'était un entretien avec tout le monde. C'était un dialogue avec tout le monde et d'abord un dialogue avec les élèves. Et je peux pas dire, je peux dire que j'ai passé 43 ans de ma vie à dialoguer d'abord avec les élèves d'une classe de philosophie, comme on l'appelait ça en France, et ensuite ce que j'ai fait pendant 31 ans à Lyon avec les élèves de classe qu'en argot de métier on appelle hippocagne et cagne.
C'est-à-dire
en point de vue, comment dirais-je, officiel, première supérieure et première supérieure préparatoire. Et alors en termes vrais et directs, c'est la préparation à l'école normale supérieure, c'est-à-dire ce qui est véritablement le concours le plus difficile en France et vraisemblablement le plus difficile au monde. Ce sont, après le baccalauréat, des jeunes qui font du grec, du latin, du français, de l'histoire et de la philosophie et qui préparent l'école normale supérieure à Paris, rue d'Ulm, on l'appelle la rue d'Ulm. Et dans ce temps-là, un peu plus de 400 à se présenter. Et on en prenait 30. Et alors, je peux dire qu'avec des élèves de cet âge et de cette formation, de 18 à 22 ans, puisqu'ils n'ont le droit de se présenter que 3 fois au maximum à l'école, comme on appelle, eh bien, c'était une espèce de discussion sur tous les problèmes. Et c'était vraiment philosopher, parce qu'à mon avis, philosopher, c'est apprendre à réfléchir. C'est plus complexe, c'est plus difficile qu'on ne pense, mais je pense que ce qu'il y a d'essentiel chez l'homme, c'est une sorte de pensée seconde, de pensée de la pensée, c'est-à-dire une pensée qui s'exerce sur tout ce qu'on a appris et tout ce qu'on a vécu. Et c'est pourquoi, personnellement, depuis mon jeune âge, je l'ai répété bien souvent dans mes livres, j'appelle la philosophie, je définis la philosophie comme la transformation par l'esprit de l'événement en expérience. La transformation par l'esprit de l'événement en expérience, si on entend par événement tout ce qui nous arrive, intérieurement et extérieurement, le vécu, et expérience, la réflexion, une certaine distance qu'on met par rapport à l'événement. Hegel disait que l'oiseau de Minerve s'envole à la tombée de la nuit. C'était très beau et très poétique. L'oiseau de Minerve, c'est la sagesse, c'est la philosophie. Que le philosophe commence à être philosophe à la tombée de la nuit. Moi, je dis d'une façon beaucoup plus prosaïque, parce que je ne suis pas poète, que le philosophe est quelqu'un qui se lève tard à la tombée de la nuit, mais j'ajoute qu'il se lève tard en tant que philosophe, mais comme homme, j'aime qu'il se lève tôt et qu'il fasse le travail des autres, sans dire je suis philosophe et sans penser qu'il va philosopher. Et il fait un certain nombre de choses qu'il apprend, qu'il vit, sa vie de famille, ses fonctions, son métier, la politique, le rapport avec les autres, enfin tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que font les hommes, puis le soir, quand les autres se couchent, il réfléchit et il philosophe.
Ce qui est remarquable d'ailleurs, M. Lacroix, c'est que la plupart de vos ouvrages ont des thèmes concrets. Et je pense en particulier à ce premier de vos livres, celui que vous avez écrit sur la timidité. C'est assez étonnant quand même qu'un philosophe...
C'est mon premier livre sur la timidité. Le livre, nous disions quelques mots tout à l'heure, et c'est plus une confession qu'un livre. J'étais très timide, j'en ai moins l'air aujourd'hui, je le suis, parce que j'ai fait de la caractérologie, je sais, quand on a tel ou tel tempérament, on n'en change pas, on le garde toute sa vie, seulement on peut transformer. Et je veux dire, il y a quelqu'un qui a dit à propos de Saint-Augustin, avant, comme... après sa conversion, il était fait de la même étoffe, seulement il l'a taillé autrement. Eh bien, la timidité, j'étais très timide, seulement je l'ai taillé autrement que je ne la taillais à 16, 18, 20 ans. Et pendant 3-4 années de ma vie, étant très timide, je faisais comme on fait tous les timides, j'en savais même rien à cette époque, j'écrivais un journal intime, ça a duré de 16 ans à 19 ans à peu près, Et puis après, à 20 ans, je me suis dit, ben tiens, t'as les matériaux d'un livre ici, ça pourrait peut-être te servir à faire un premier livre. Et j'ai écrit ce livre sur la timidité, qui peut être intéressant pour les psychiatres et les psychanalystes comme matériaux, mais qui évidemment est beaucoup plus de l'ordre d'une confession que d'une étude.
Ce livre, vous l'avez écrit dans les années 35-36, si je ne me trompe pas, à peu près.
Et je l'ai écrit dans les années... en fait, je l'avais fini en 24-25.
Oui.
Mais vous savez, quand on n'est pas connu, que l'on le sait, il faut un certain temps. Puis j'avais aussi une certaine honte à le publier. Je disais, on va reconnaître ceci, on va connaître cela. Je l'ai publié vers 35, en effet, parce que j'ai trouvé un éditeur à ce moment-là. Et puis je me suis décidé à... J'avais pris de l'aplomb, j'étais devenu professeur. Alors j'ai décidé d'envoyer mon manuscrit, puis un éditeur qui l'a accepté tout de suite.
Une chose qui m'a étonné, Monsieur Lacroix, c'est que dans les premières pages de ce livre, quand vous parlez de la timidité, vous dites que pour vaincre la timidité, il ne suffit pas de s'adresser à un bon médecin, parce qu'il y a, il y a des problèmes, vous dites problèmes physiques, mais ce n'est pas des problèmes neurologiques. Il ne suffit pas non plus de s'adresser à un bon psychologue, il faut aller au-delà de ça. Vous conseillez même de s'adresser à... Enfin, vous conseillez même une expérience spirituelle, n'est-ce pas? Vous conseillez de s'adresser même à un prêtre, être un confesseur, etc. C'était quand même étonnant de voir un philosophe en 1935 dire des choses pareilles.
Et moi, ça me semble extrêmement simple et naturel. La timidité était pour moi un très grave péril. Tous les psychologues, tous les timides, tombent dans ce qu'on appelle, dans ce que j'appelle personnellement le psychologisme. Et le psychologisme est la source de toute erreur et de toute faute. À mes yeux, la psychologie est quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement important chez l'homme, d'épouvantablement dangereux. C'est le heurt des sentiments dans l'individu, et s'il se laisse aller n'importe quoi, c'est la bataille en lui, et c'est épouvantable. Le timide est un être replié sur lui-même. La caractérologie moderne distingue différents types de caractère. Ben, il y en a essentiellement deux qui ensuite se divisent en timides. Il y a ceux qui sont plus extériorisés et ceux qui sont plus intériorisés. Alors le plus intériorisé des intériorisés, c'est le timide. Essentiellement, chaque coup qui est porté, chaque coup qui est frappé, chaque chose qui lui paraît le diminuer, etc., il en souffre épouvantablement et il s'examine sans cesse. Il est dans une espèce de dialogue perpétuel et qui ne dépasse guère le niveau psychologique. Vouloir guérir de la timidité, c'est cesser d'être victime des sentiments comme ça, qui arrivent sans qu'on ait aucune réflexion sur eux, et à passer à un autre stade, le stade intellectuel, d'abord, qui est tout à fait supérieur au stade psychologique, et enfin, ce qui est supérieur au stade intellectuel, comme le stade intellectuel est supérieur au stade psychologique, le stade spirituel.
La sainteté qui est au-delà de la sagesse, comme vous dites justement dans ces premières pages de votre volume sur la timidité.
C'est ça. Le spirituel, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus élevé et c'est ce qui sauve. C'est ce qui ne me fait pas du tout, comme certains le font, comme Clavel le fait. Je m'entends très bien avec Clavel, j'admire beaucoup. Je regrette tout ce qu'il peut dire contre l'intellectualité et contre la philosophie. Je parle de Maurice Clavel, pas de Bernard. Eh bien, en réalité, je considère que l'intelligence est une très grande chose. Je suis philosophe et j'ai été émerveillé et heureux, comme ce n'est pas possible, quand j'ai lu Malebranche et que j'ai vu que Malebranche disait que la raison est une révélation naturelle et la foi une révélation surnaturelle. Eh bien, deux révélations ne peuvent pas se heurter. Par conséquent, la raison est une révélation naturelle. Je dirais que ça a commandé ma vie. Parce que cette révélation naturelle, ça veut dire que c'est une révélation qui est accordée par Dieu à tous. Que tous les hommes possèdent la raison. Et que sur ce plan-là, je peux discuter d'égal à égal. Mais lui aussi est mon égal, quel qu'il soit. Avec un musulman, avec un bouddhiste, avec un juif, avec un communiste, avec quelqu'un d'extrême droite, avec n'importe qui, quel qu'il soit. Ils ont la raison, et ils doivent ne pas la laisser détruire par la passion, et s'ils savent la retrouver suffisamment, eh bien on est sur un plan d'égalité, tandis que la foi est quelque chose qui ne permet pas, dont on doit témoigner, mais qui ne permet guère une discussion avec des gens que ça n'intéresse pas. Tandis que tout ce qui est de l'ordre intellectuel et rationnel, eh bien, c'est quelque chose qui est humain, qui vaut pour tous, et qui fait une communion extrêmement répandue. Malebranche disait aussi la grande société, la véritable société où il n'y aurait plus de passion, ce serait la société de la raison.
Un des volumes qui vous a fait beaucoup connaître, c'est le livre que vous avez écrit sur la famille, n'est-ce pas ? Autre problème concret, encore une fois, n'est-ce pas ? Ce livre, est-ce que vous l'écririez de la même façon aujourd'hui ?
Certainement. Je l'écrirais de la même façon parce que c'est un livre. Et je veux dire, c'est assez difficile de savoir comment on agirait avec sa femme et ses enfants à un âge déterminé. Et si on se mariait à mon âge, si je me mariais à 77 ans, je ne serais peut-être pas de la même façon qu'à 29 ans quand je me suis marié. Mais le livre serait exactement le même, peut-être plus approfondi encore. Et pour une raison bien simple, je n'ai pas changé d'avis sur la famille. La famille, pour moi, c'est le chapitre central de cet ouvrage. La famille est fondée sur ce que j'appelle l'aveu.
Le consentement.
C'est ça. Mais l'aveu est quelque chose qui est plus profond qu'un consentement. C'est pas simplement de dire oui. La vie familiale, la vie véritable de la famille, pour moi, je ne dis pas que je la pratique, je ne dis pas que j'ai réussi, c'est ce que je voudrais être. C'est un aveu perpétuel de deux êtres l'un à l'autre. Et cet aveu est un aveu d'amour et de culpabilité. Celui qui aime vraiment, la personne qu'il aime, il s'estime coupable à son égard. Il s'estime toujours coupable, qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas. Mais au fond de lui-même, il le sent profondément qu'il est coupable, puisqu'il en a besoin. Puisqu'il en a besoin. Il sait qu'il est fini, il sait qu'il est un être imparfait, qu'il a besoin d'un autre être. Et je pense qu'il a besoin d'un autre être, d'un sexe différent, pour aller complètement au bout de lui-même, pour tâcher, enfin, de se dépasser sans cesse. Il lui faut une aide. Et par conséquent, l'aveu dans le mariage des deux êtres qui se marient, mais cet aveu qui est fait le jour du mariage, et ce n'est qu'une promesse encore. Il faut qu'il se poursuive toute la vie. Il n'aboutit jamais. Il n'est jamais parfait, il n'est jamais complet. Mais c'est un aveu qui est un aveu à la fois, et c'est que là, il n'y a que là qu'il existe, un aveu de chair et d'esprit. Un aveu mutuel, parfaitement conduit toute l'existence pour que les deux êtres, à tout point de vue, j'ose ce terme, se pénètrent toujours davantage. Et je pense que c'est ce qu'ont trouvé, sous une forme ou sous une autre, tous les gens qui ont réfléchi profondément, véritablement, sur le mariage. Et longtemps après avoir écrit ce livre, j'ai fait ce que j'aurais dû faire avant de l'écrire. J'ai lu un magnifique ouvrage de Michelet. Et Michelet était un anticlérical fieffé, et tout à fait contre l'Église, tout ça, contre tout sacrement. Et il a écrit un livre, La femme, que je n'avais jamais lu. Et un jour, on m'a indiqué d'ailleurs de lire cet ouvrage. J'ai lu La femme de Michelet et j'ai trouvé une page que je garde sur mon cœur, si je puis dire, ou que je mets dans le cœur de mon livre. Et il dit, il faudra un sacrement de l'avenir. Lui, athée, lui, il l'appelle le sacrement de l'avenir, un sacrement laïque. Et ce sacrement de l'avenir, il l'appelle le sacrement de confession. Ce sera la confession et c'est le sacrement du mariage. Ce sera la confession toute leur vie de deux êtres qui se confesseront perpétuellement l'un à l'autre. Et il dit, ce mariage, il faut le développer, il existe encore à peine. Je trouve que chez Michelet, c'est un peu idéaliste, parce qu'il explique qu'ils doivent se parler toute la journée ensemble pour se confesser l'un à l'autre, ce qui me paraît un bel idéal, mais peu réalisable. Je pense que la confession, ça tient dans les paroles, mais ça tient aussi dans le comportement, dans la manière d'être. Alors c'est pourquoi j'ai été content de ne pas employer ce mot, et d'employer le mot d'aveu, où l'on entend par là, car avouer quelque chose profondément, c'est toujours s'avouer soi-même.
Oui. Mais l'aveu suppose quand même la fidélité aussi.
Ah bon. L'aveu suppose la foi et la fidélité. J'ai analysé la foi et la fidélité familiale. C'est même un terme que j'ai très profondément repris. Il n'y a pas simplement la foi religieuse. Il y a la foi de l'homme à l'égard de l'homme. Et il y a diverses manières d'avoir une foi les uns à l'égard des autres. Mais dans la famille, c'est, à mon avis, là où la foi à l'intérieur de l'humanité la plus forte et la plus profonde. Je parle, encore une fois, en dehors de toute foi religieuse, où la foi religieuse peut exister et la surnaturalisée, c'est un autre problème. Mais chez toutes des êtres mariés, je peux vous citer le cas d'anarchistes, athées, violemment athées, qui pratiquaient ce qu'ils appellent l'union libre, mais qui se donnaient tout entier l'un à l'autre et qui ont eu une vie de mariage absolument magnifique, et d'amour extrêmement profond, parce que précisément, ils fondaient ça sur un aveu tout à fait libre, tout à fait autonome, où la société et Dieu qui n'existaient pas pour eux n'avaient rien à voir. Mais enfin, pour moi, les mariages sont toujours valables lorsqu'ils reposent sur l'aveu, c'est-à-dire un amour total de chair et d'esprit, malgré toutes les scènes qu'il peut y avoir dans le ménage, malgré les... Je dis pas les infidélités, c'est une chose que je trouve épouvantable. Mais enfin, chacun sait bien que ni l'homme ni la femme ne sont parfaits, et que dans tout ménage, il y a des moments où ils s'attrapent. C'est des moments sans importance, d'ailleurs, à mon égard, parce qu'ils savent bien l'un et l'autre au fond d'eux-mêmes, le mari et la femme, quand ils s'attrapent. Qu'en réalité, c'est superficiel, en fait. Je veux dire, même si ça atteint quelque chose, ils savent que le fondement de fidélité et de foi reste essentiellement présent. Et dans n'importe quel moment où il y a cela. C'est pourquoi je pense que, en effet, foi et fidélité sont les caractéristiques mêmes du mariage, et que le fondement du mariage, c'est l'aveu, et que j'estime valablement mariés tous ceux qu'ils soient dans l'union libre, ou qui ne se sont mariés qu'à la mairie, ou qui ont pratiqué l'union de deux volontés, l'union devant la société, à la mairie ou de quelque autre manière, et s'ils admettent, s'ils sont religieux, l'union devant Dieu, eh bien c'est cet aveu qui peut prendre diverses formes, s'approfondir à mon avis le plus profondément chez ceux qui sont chrétiens, chez ceux qui sont croyants, qui peut exister chez d'autres. C'est cet aveu qui est la réalité du mariage, et cet aveu, ce sera un tout autre problème, et de soi créateur.
Et vous-même, M. Lacroix, dans votre livre Le désir et les désirs, vous avez bien été forcé de constater que cette notion de fidélité, cette notion d'aveu, est en train de disparaître chez les jeunes actuellement. En tout cas, qu'elle est fortement menacée.
Elle est fortement menacée. C'est un problème, mais difficile, c'est un problème tellement difficile. Mais j'ai essayé, dans ce volume sur le désir et les désirs, d'atteindre quelque chose à quoi je crois très profondément. Et après les avoir beaucoup étudiés, beaucoup analysés, 68 a été en France un événement d'une telle importance que j'ai voulu m'y attacher. Et presque pendant 10 ans, tout en faisant autre chose, j'ai étudié, j'ai conversé avec les jeunes contestataires, comme on les appelait, et j'ai été les voir, ils sont venus me voir. J'ai cité, d'ailleurs pas tous, mais j'ai cité un certain nombre de témoignages de leur part dans ce livre. Et si par-dessous ce qu'il y a d'apparent, on cherche ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond, eh bien on découvre, à mon avis, quelque chose de très beau et de très valable chez ces jeunes, avec, hélas, à mon avis, du moins et de mon point de vue, avec quelquefois des manières de le présenter, des manières d'être, qui peuvent être déplaisantes et qui, hélas, le sont dans un certain nombre de cas chez les parents. Je ne sais pas, je devrais vous dire ça. Je pourrais le supprimer. Il y a 5-6 ans, en allant parler au Canada, où j'étais attendu, j'ai trouvé, avec les gens qui m'attendaient, des parents qui sont avancés vers moi, qui m'ont dit: monsieur, nous avons une démarche qui est peut-être un peu délicate de notre part, mais enfin, vous pourrez refuser. Je vois bien qu'il y a tant d'heures de différence entre l'heure en France et au Canada, et nous voudrions vous demander, puisque pour vous il doit être à peu près minuit, c'était 6 heures de l'après-midi, si vous voudriez venir dîner chez nous, rien d'autre soir, vous partirez dès que vous voudrez. Un repas où nous ne serons pas présents, nous parents. Nous avons 3 enfants, 2 garçons et une fille, qui sont des étudiants ou des gens dans ce sens-là, et ce que vous appelez en France les contestataires, et qui ont des amis qui sont comme eux. Alors on a dit que vous veniez, ils seraient bien contents de parler avec vous, et nous allons vous faire grand plaisir. Et alors, si ça vous ennuie pas, je ne m'ennuie pas du tout. J'ai été dîner, les parents n'étaient pas là. On a discuté de tous les problèmes. J'ai trouvé extrêmement sympathique ces jeunes. Les parents, c'était visible, éprouvaient de la peine. Et c'est ce qui se passe dans les familles. Mais en même temps, parce qu'il y a je ne sais quel complexe qui fait que ce qui est attendu n'est pas exactement ce qui se produit. Mais là, quand ils sont à la détente, n'importe quoi, moi je savais qu'ils ne pouvaient pas me faire de peine, ils ont été très clairs, très nets, on discutait, j'ai trouvé quelque chose de très beau, de très profond. et avec leurs amis aussi. Bon, j'étais 8-10 au total. Ça a duré jusqu'à minuit, la discussion le soir. Et je suis parti, et à la porte, à l'entrée, et j'ai trouvé les deux parents, déjà relativement âgés, qui étaient assis sur deux chaises près de la porte d'entrée, qui se sont levés, qui m'avaient attendu pour me dire adieu, m'ont rien dit, au revoir monsieur, merci. Et c'est tout. Et j'ai trouvé et les parents et les enfants admirables. Et d'où vient alors, si on va très loin, c'est vrai, je pense, pour le Canada autant que pour la France. Nous en parlions ensemble tout à l'heure, nous deux. Je ne crois qu'à une loi historique, vous disais-je. C'est celle qu'a découverte Bergson, elle me paraît toujours valable. C'est ce qu'il appelait la loi de double frénésie. La pauvre humanité progresse, pensait Bergson, il croyait au progrès, mais elle ne progresse jamais d'une façon unilinéaire. Elle progresse toujours par excès compensé. On va toujours trop fort dans un sens et ensuite trop fort dans l'autre. Et bien, si on regarde la France, et je pense que c'est au moins aussi vrai pour le Canada, si on regarde la France du 19e siècle, ça a été une société de contraintes. Ça a été une société à l'intérieur de la famille, épouvantablement dure, le père ayant tous les pouvoirs, étant le chef de la famille. La femme, comme disait de Bonald, doit être ministre entre le père qui est roi et les enfants qui sont sujets. Un grand penseur catholique du 19e siècle, voilà ce qu'il écrivait. Et ministre, en ce temps-là, ça veut dire celui qui reçoit Dieu, les ordres du roi, c'était la restauration, et qui fait obéir les sujets, ou si c'est la femme, ministre, qui fait obéir les enfants, parce que tout de même, le père a autre chose à faire que s'occuper des menus détails de cet endroit-là. Eh bien, en réalité, ça existait en France, et ça existait encore au début du 19e siècle. Je ne dis pas que tous les jeunes aujourd'hui en France ont lu ces choses-là, le savent, mais ils l'ont dans le sang. C'est dans l'inconscient des Français d'aujourd'hui qu'il y a eu une contrainte sur tous les plans politiques, religieuses, extérieures et dures, religieuses et familiales, qui a été terrible, surtout pour les jeunes et pour les femmes. D'où, aujourd'hui, très naturellement, une frénésie en sens inverse. Cette frénésie en sens inverse, est-ce qu'elle est destructrice de la famille? Je ne le crois pas du tout. Je ne le crois pas du tout, je me trompe peut-être dans certains cas. Je ne dis pas, il y a des ratés. Mais si on voit ce qu'il y a chez les jeunes, les sentiments profonds qui existent en eux, bien, de mon temps, les garçons se mariaient à un certain âge et les filles à un certain âge. Les statistiques montrent que les hommes se marient 3 ans plus jeunes, en moyenne, c'est pas statistiquement parlant, que leurs aînés il y a 50 ans, et les femmes un an, presque un an, pas tout à fait, 10 à 11 mois plus jeunes, disent les statistiques, qu'il y a donc 50 ans. Là, on ne cherche pas véritablement cet aveu mutuel. On ne cherche pas toutes sortes de considérations extérieures, de facilité, d'argent, de dot, etc. Toutes ces choses-là ont disparu. Et ces choses se font suivant précisément un amour qui est peut-être un peu trop rapide quelquefois, qui associe, mais qui est tout de même moins égoïste que ce qui se passait autrefois. Non, en réalité, je pense personnellement que sous des troubles et des complexes qui sont, et je le sais, je connais cette famille lyonnaise, je ne parle pas à Paris, j'ai vu le cas au Canada, et je sais qu'il y a des familles où les parents souffrent beaucoup de l'attitude des enfants, où les enfants croient souffrir beaucoup de l'attitude des parents, et que ça, c'était une chose à laquelle il faudrait tâcher d'objet le plus vite possible, mais je pense qu'en réalité, ce qui se fait n'est pas une destruction de la famille, mais bien plutôt, et je dirais presque heureusement, une destruction de liens trop contraignants, trop durs, et qui ont existé autrefois, et que alors les jeunes, comme il arrive, répondent à un excès par un autre, et que parfois ils dépassent la mesure, c'est parfaitement exact, il ne saurait en être autrement.
Dans la crise de la société actuelle, M. Lacroix, quel rôle attribuez-vous à la famille?
C'est extrêmement difficile et ambigu à dire. Les traditionalistes ont employé une formule, par exemple de Bonald l'a répété indéfiniment et tous, la famille est la cellule sociale. C'est la formule la plus dangereuse qui ait jamais été prononcée et contre quoi je m'élève violemment dans tous les livres et dans celui sur la famille. Car la cellule sociale, pour les traditionalistes, ça veut dire que l'organisation politique doit être la même que l'organisation familiale et qu'il faut à la tête un roi, comme le père de famille est roi de la famille pour cette époque et pour ces gens, et ça implique tout un ensemble politique. C'est pourquoi la notion de cellule sociale a été tellement discutée. Deuxièmement, on peut entendre par là, alors, quelque chose de tout à fait différent. Et il est vrai que la famille est fondamentale au point de vue social en tant que la famille forme précisément les enfants. Elle doit les former à la fois dans un esprit éducatif et dans un esprit de liberté. Il y a un livre qui vient de paraître sur l'endoctrinement qui montre que précisément c'est ruiner la famille que vouloir endoctriner les enfants, qui montre au contraire que si les parents se laissent former par les enfants autant que les enfants doivent être formés par les parents, alors on a une famille ouverte. C'est le dernier chapitre de mon ouvrage et quelque chose d'essentiel pour la société.
Jean Lacroix, je vous remercie.